Voilà, et pour démarrer cette émission, eh bien, on va parler de psychologie et d'intelligence artificielle. Alors, on va voir comment on peut associer ces deux mots, ce qu'on peut peut-être en tirer comme prospective d'une certaine manière, et réflexion en tout cas. Et je suis donc avec Franelia Ioni, qui nous a rejoint et qui est donc psychologue et avec qui nous allons échanger pendant quelques temps. Voilà. Bonjour tout d'abord, Franelia.
Oui, bonjour.
Heureux de vous accueillir dans nos studios. Nous sommes en direct aujourd'hui.
Merci.
Bon, ça va pas trop. La chaleur ne vous pose pas trop de problèmes,
non ? Non, ça va. Je suis de Madagascar, alors j'aime bien la chaleur.
Ah, très bien. Voilà. C'est vrai que selon les endroits où on est né, on a pris peut-être des habitudes, des coutumes, des façons de s'organiser et de vivre. Et après, évidemment, quand on vient dans le nord de la France, pendant longtemps, on a dit que c'était une zone où il faisait toujours mauvais, il pleuvait, il faisait froid. Là, effectivement, les choses changent un peu, du moins l'été, là. Et même au mois de juin, une chaleur quand même assez exceptionnelle. Et qui nous font envisager des modifications, sans doute, climatiques à venir, qui ont peut-être déjà démarré et qui s'amplifieraient selon les spécialistes. Comment on se prépare à tout ça ? Mais évidemment, c'est une question qu'on pose aujourd'hui. Peut-être qu'avec l'hiver, on va un peu fermer la parenthèse, mais le problème reviendra de toute façon, je pense, l'an prochain. Et s'y préparer, c'est la moindre des choses.
Oui.
Et là, aujourd'hui, eh bien, on va parler aussi de quelque chose qui, d'une certaine manière, prépare l'avenir, ou du moins un élément nouveau depuis une dizaine d'années, qui est l'intelligence artificielle qu'on ne connaissait pas, enfin du moins pour les non-initiés, il y a 5 ans, et qui maintenant a pris une ampleur considérable. Alors on va voir en quoi ce développement de l'IA, au niveau international, et puis aussi au niveau des particuliers, des entreprises, va changer d'une certaine manière la donne et la façon de vivre des gens. Et notamment, on va aborder la question psychologique liée à ces outils nouveaux qu'il faut sans doute mieux connaître pour éviter d'en avoir peur et les maîtriser aussi.
Oui, c'est ça.
Alors, donc pour évoquer cette question-là, peut-être qu'on pourrait... parler de ces gens qui découvrent cet outil, l'intelligence artificielle, dans des usages différents, hein, mais qui se précipitent un peu sur son usage et qui peut-être voient leur vie un peu modifiée, changée, à partir de facilités d'une certaine manière qu'ils peuvent avoir, mais aussi des comportements nouveaux qui émergent ou qui vont émerger dans les prochaines années.
Tout à fait. Alors en psychologie, quand on parle de l'intelligence artificielle, je pense à deux choses. Il y a sûrement d'autres choses, mais les deux choses auxquelles je pense en premier, c'est le fait d'utiliser l'IA en tant que psy, c'est-à-dire je vais raconter ma vie, ma douleur, mes traumas, en attendant que ChatGPT, par exemple, me propose une réponse, une observation. Il y a cette façon-là d'utiliser l'IA. Et la deuxième façon, il y a le fait d'utiliser l'IA par les psychologues, notamment dans l'aide à l'analyse et à l'interprétation du discours du patient.
Donc, la question se pose quand même d'un point de vue déontologique. Est-ce qu'on peut laisser l'IA dans la décision ? Ou même dans la pratique de la psychologie, qui est quand même un acte particulier, avec une relation particulière au patient, et qui nécessite des précautions que peut-être l'IA ne prendrait pas.
Mais oui, absolument. C'est pour ça qu'il s'agit d'être consciencieux. Donc le psychologue qui utilise l'IA, et ce serait faux de dire qu'il n'y en a pas, c'est pour aider à... avoir une hypothèse, à réfléchir, à mieux comprendre le patient. Donc, effectivement, ça peut orienter la réflexion, mais ce n'est pas une bonne idée d'utiliser l'IA pour écrire un bilan, par exemple, ou pour proposer un diagnostic, bien sûr que non.
ça peut donner expérience peut-être élargie d'une problématique sur une population beaucoup plus grande, puisque l'IA a peut-être accès à des données au niveau national ou international, et quand on a un cas, chaque personne étant un cas unique, comment on voit dans un ensemble peut-être des comportements plus habituels, ou du moins des cas moins uniques qu'on ne le pense au départ.
Effectivement, l'IA pourrait nous aider à comprendre un phénomène, une façon de faire. Je ne sais pas, par exemple, pourquoi quand une personne tombe dans le bus, peu de gens se lèvent pour la ramasser. Ça peut être un phénomène psychologique analysable. Bon, l'IA peut sûrement nous aider à analyser des phénomènes psychologiques. Au niveau individuel, il va proposer une réponse, de toute façon, quand on demande à l'IA de nous aider à réfléchir, il nous aide. La question, c'est la prise en compte de tout le contexte. Combien de fois j'ai vu le patient, quelle était l'expression de ce patient ce jour-là, je ne sais pas, avant d'arriver, il était sous, enfin, je dis n'importe quoi, mais tout ça, c'est à prendre en compte dans la qualité du discours, quel âge a le patient, depuis combien de fois il vient en thérapie, combien de thérapies le patient a fait, enfin bref. Et les émotions, ça compte tellement dans le diagnostic, dans l'interprétation, on va dire plutôt, dans l'interprétation du psychologue des phénomènes psychique. On ne parle pas de diagnostic, ça c'est plutôt auprès du psychiatre, mais auprès du psychologue, on va raconter ses douleurs, ses expériences. Et donc, il y a plein de gens qui écrivent ça dans ChatGPT et on ne peut pas dire que ça n'existe pas et que c'est interdit puisque les gens le font. Donc, il s'agit plutôt de se dire, ok, les gens font ça et du coup, comment on encadre, comment on contrôle et pourquoi ces personnes ne vont pas voir jusqu'au psy lui-même. Je trouve que c'est ça aussi la question.
Donc vos métiers en fait sont quand même beaucoup basés sur la confiance entre le patient et le praticien, le clinicien, etc. Que cette relation elle s'établit sur une durée et que donc à chaque fois que le patient vient, il y a cette connaissance du patient qui est établie et qui permet d'avoir une vision beaucoup plus large que un élément. On propose à une IA qui va gérer ça dans un ensemble.
Voilà, c'est ça. Cette notion de confiance est très importante parce que l'IA, c'est qui ? C'est quoi ? Bon, on peut aussi ne pas avoir confiance en son psy, hein, ça existe.
On change.
Voilà, on change. Bon, mais l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire de ces informations ? Où est-ce que ça va ? Je ne sais pas, moi, chez les Américains ou même les Français, hein, bon... Et c'est ça la différence. Alors en général, si j'utilise l'IA pour raconter ma vie, je ne vais pas raconter toute ma vie. Je vais raconter un peu une situation en espérant avoir quelques idées, être aiguillée. Mais ce qu'on comprend en psychologie, c'est que c'est le contexte qui va donner du sens à mes émotions. Parce que pourquoi je réagis d'une telle manière, c'est bien au regard de mon histoire, de mon passé, de tout un contexte que l'IA n'a pas. Donc l'IA, elle va pouvoir me donner une réponse plus ou moins juste de ma situation, c'est bien en fonction des éléments que je vais lui proposer. Et ces éléments, elle ne les a pas.
Alors souvent, l'IA va dans votre sens quand vous questionnez, vous mettez en avant quelques principes, quelques idées que vous avez, auxquelles vous tenez, et elle va les reprendre pour vous resservir ces éléments dans une réponse, et vous aurez l'impression que vous avez raison, toujours.
C'est vrai, ouais. J'ai pour le moment pas utilisé l'IA pour raconter un peu une situation me concernant, mais il faudrait que j'essaie pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'en y pensant, là, je ne l'ai jamais fait. Mais ce que je sais dans ce que certains patients m'ont raconté, ou même mon entourage, c'est que oui, il vient valider. Bon, il peut proposer aussi des idées originales, mais il va à peu près dans notre sens. Mais je pense que c'est... Qu'est-ce que je demande à l'IA ? En fonction de la pertinence de ma question, je peux avoir une réflexion qui va m'aider à avancer. Mais c'est toujours la question du contexte et la question de la confiance, parce que chez le psychologue, ça ne va pas sortir du cadre. Le psychologue, c'est son métier. Il y a tout ça qui compte. Je me sens en sécurité.
Alors justement, se confier à une IA, raconter son histoire, ses fantasmes, ses idées, etc., est-ce qu'il n'y a pas le risque de se laisser enfermer d'une certaine manière, puisque l'IA va renvoyer des choses qui pourraient cautionner des comportements qui ne sont pas forcément les meilleurs, appropriés, et donc il n'y aura pas ce regard extérieur, j'allais dire neutre, ou du moins expert, que serait celui d'un psychologue.
Oui, effectivement, c'est la complexité. J'essaie de trouver une situation, un patient qui va vraiment pas bien, et il peut me demander est-ce que c'est une bonne idée que j'appelle mon père, par exemple, au regard de cette situation. Bon, même si selon moi c'est pas une bonne idée, si je sens qu'il est trop dépassé et que ça a l'air d'être la seule issue et que je me dis, bon, appeler son père, c'est pas non plus la fin du monde. Enfin, je peux lui proposer une solution qui serait peut-être pas la première idée, mais au regard de toutes les émotions et de la charge mentale, psychique, je peux lui dire, bien sûr, vous pouvez tenter de le contacter, par exemple, même si je sais que c'est pas une bonne idée et qu'il y a toujours conflit quand il s'appelle, par exemple, hein. Donc voilà, c'est toute la prise en compte de la spécificité de la situation, de la force des émotions que l'IA n'a pas. Mais bon, je suis quand même pas contre l'IA. Hein. Moi, je pense que ça donne à des personnes l'occasion de raconter une situation, sinon à qui je raconte ?
Alors cette question est la solitude d'une certaine manière. Mais
oui,
des gens,
c'est
dans
ça,
une société, on est de plus en plus coupé du monde.
C'est
vrai qu'on a tendance à se réfugier dans des outils Internet, etc. Mais la pratique sociale, dans tout cela, elle est un peu écartée. Donc comment redonner de la réalité aux gens en les faisant rencontrer des vraies personnes dans la vie associative ou les loisirs ou... Peu importe, la relation humaine, ça reste fondamental. L'homme est un animal social.
Bien sûr, c'est vrai que quand on se dit qu'il y a des patients qui voient des psys, hein. Moi j'ai une patiente qui vient me voir souvent et elle m'a dit « Ah bah la dernière fois j'ai demandé à l'IA parce qu'entre deux séances c'était trop long. Enfin, il y avait vraiment ce côté, c'est trop fort, j'en peux plus. » Bon. Ensuite, il y a ce besoin de parler, mais à qui je parle quand je vais mal ? Donc, il y a le réseau, les associations, par exemple. Il y a l'entourage, mais j'ai pas envie de leur raconter. Je prends la relation amoureuse classique, mais ça fait 50 fois que je raconte à mes amis ce mec, j'en peux plus, mais en fait, je retourne avec. À qui j'en parle aujourd'hui ? Même à ma famille, ils veulent plus entendre parler de lui, ils me disent de le quitter. Voilà, c'est un peu ce côté enfermement où je vais trouver un tiers que vient représenter l'IA, finalement.
Donc un tiers qui serait présenté ou qui se présenterait comme objectif ?
Bon, objectif, je sais pas si l'IA est objective, mais bon, du point de vue du patient, ouais, je pense qu'il y a peut-être cette idée-là, effectivement. On ne me connaît pas, c'est-à-dire que l'IA ne me connaît pas, ne connaît pas toute mon histoire. L'IA ne sait pas que ça fait 10 fois qu'on s'est quitté. Du coup, il n'a pas tout le contexte et il va peut-être me donner quelque chose de plus objectif au regard de la situation que je vais exposer. Parce qu'en fait, je choisis de dire ce que je veux. Hein.
Autrefois, dans certains pays catholiques, il y avait la pratique de la confession. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, c'était en fait exprimer des problématiques de sa vie à une personne au travers d'un masque, un écran, pour pas qu'il vous reconnaisse a priori, et qui donc permettait de se livrer, de se libérer peut-être, et peut-être d'avoir un conseil en retour. Ça, c'est une pratique qui n'existe quasiment plus, bien sûr. Hein. Donc, vers qui se retourner pour exprimer une souffrance, d'une certaine manière, se libérer peut-être d'agissements qui, moralement, nous posent problème et auxquels on voudrait une solution, auxquelles on aurait du mal à faire face seul, peut-être aussi.
C'est vrai, il y avait donc la religion, hein, le fait de se rendre auprès du chef religieux, se confesser, tout ça, ça a aidé. C'est pour ça que j'ai pensé aux associations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme lieu qui viendrait pallier à cette solitude ? Normalement, le médecin, par exemple. C'est quand même plus facile que la psychologie. En tout cas, les gens ont cette idée que c'est plus facile d'aller voir le médecin. Après, la différence avec l'IA, c'est que c'est sur mon téléphone que j'ai tout le temps à la main, hein, finalement, plus ou moins. Donc, voilà, je vais sur ChatGPT, par exemple, et puis j'écris. Il y a ce côté disponible immédiatement et n'importe quand. Le médecin, je dois prendre rendez-vous. L'association, bah, c'est ouvert de telle heure à telle heure. Enfin, il y a tout ça qui semble difficile à remplacer par une institution qui serait dispo H24. Mais bon, ça se travaille, pourquoi pas.
Donc effectivement, un usage peut-être à valider ou à réfléchir, et puis aussi aller vers les autres, qui sont parfois des solutions, parfois des problèmes aussi, mais c'est affronter la vie.
C'est vrai ça. C'est vrai, c'est-à-dire être plus disponible pour les autres, demander à un entourage, un ami, comment ça va, ça fait longtemps. Peut-être ça aussi, oui, c'est vrai, il manque ce côté social qu'expriment les personnes en racontant leur vie avec l'IA, effectivement. Ensuite, je pense que c'est aussi l'ère du temps. Il y en aura de plus en plus, j'imagine, qui l'utiliseront. Moi, je l'ai utilisé, donc je ne l'ai jamais utilisé, comme j'ai dit, pour raconter ma vie. Mais cette année, je l'ai déjà utilisé. Exemple, un appartement, je dois faire la liste. Un appartement à louer, je dois faire la liste des objets de l'appartement. Et du coup, j'ai fait un vocal et l'IA me retranscrit le vocal. Bref, c'est la première fois que j'utilise l'IA. Et c'est utile, en fait. Ça m'a listé tout ce que j'avais dicté. Enfin, c'était facile, quoi. Donc, il y a une utilité. Ces personnes qui racontent leur vie, on ne pourra pas leur empêcher. On peut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Je pense que c'est que ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. D'ailleurs, pourquoi il y a des personnes qui parlent seules? Hein, seul, même dans la rue ou même chez soi, parce que ça fait du bien rien que de raconter, de verbaliser, d'extérioriser. Et c'est ça que l'IA vient dire. Hein. Je lui ai raconté, je ne sais pas qui c'est, en plus la personne me répond, enfin la personne, l'objet me répond. Donc c'est comment on encadre, comment on suit ce processus, parce qu'une personne qui va continuer sa thérapie, entre guillemets, c'est pas une thérapie, hein, mais continuer ce dialogue qu'elle croit thérapeutique avec l'IA, jusqu'où ça va et comment on fait.
Donc, effectivement, c'est un outil, donc une machine, d'une certaine manière.
Mais oui, hein, mais oui.
Et à ne pas confondre avec un humain. Comment on peut vraiment bien maîtriser la différence, que c'est pas un être humain, que même s'il répond comme si il avait une relation presque affective avec nous, on fasse bien la différence et qu'on fasse attention aux dangers que ça pourrait comporter.
Donc oui, je suis psychologue depuis 10 ans maintenant et je trouve que même chaque être humain a son fonctionnement. Enfin, il n'y a pas de généralité possible. Il faut prendre en compte les émotions, mais on a besoin aussi, un peu, des fois, je crois, de dire un peu n'importe quoi. Enfin, je dis ça, c'est un peu ce que nous permet de faire l'IA. Bon, après, comment répondre à ta question l'humain, oui, c'est pour ça que je parlais de la prise en compte des émotions que l'IA, je crois qu'elle ne peut pas faire. Après, je peux dire à l'IA, je suis en colère, mais il n'y aura pas ce côté affectif que j'exprimais. Voilà, que dire d'autre là-dessus Les psychologues, entre eux, on a aussi des rencontres, des séances d'intervision pour échanger sur certains cas cliniques complexes. C'est que on a besoin d'une équipe pour proposer une réflexion de qualité, ce que l'IA ne va pas proposer non plus. Enfin bon, voilà, il y a tout un travail en amont. Mais je répète que l'IA sera utilisée de plus en plus. Et donc, quand une patiente me dit « Notre rendez-vous arrive 2 semaines après le dernier et c'était trop long, j'ai utilisé l'IA entre-temps », je me dis... Je ne dis pas du tout à la patiente que ce n'est pas une bonne idée, je l'entends. Je lui dis « Ah d'accord, alors, quelles ont été les réflexions ?» Voilà, je l'amène à s'exprimer. Je ne l'encourage pas non plus, mais je ne lui dis pas que ce n'est pas une bonne idée. Donc en fait, on travaille avec les outils, les objets qui existent. Et c'est OK, puisque c'est ce que la patiente a utilisé.
Voilà, donc on a parlé un petit peu des dérives possibles, l'enfermement, le fait de croire que l'IA serait humaine ou renverrait de l'humain alors que c'est une machine. Bon, une fois qu'on a bien compris ça, après on peut s'aventurer dans des technologies comme on s'est aventuré dans d'autres. Hein. Je ne sais pas ce qui est plus nocif, si c'est la télévision haute dose comme on l'a vécu il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou si c'est l'IA qu'on interroge. En fait, il y a un aspect un peu dynamique quand on pose des questions qu'il n'y a pas devant un téléviseur.
Oui, j'ai un peu plus le sentiment que c'est un peu plus personnalisé, je pense. Effectivement, je peux raconter quelque chose de plus individuel. Ensuite, j'ai noté un peu aussi le positif de l'IA. Donc, on a dit immédiatement disponible. On a dit j'ai toujours l'objet sur moi, en fait, sur le téléphone. Il y a la rapidité aussi. Hein, j'écris un truc, il me répond. Enfin, limite, j'ai pas terminé, il est en train de répondre, quoi. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Il y a aussi le fait que je puisse demander à l'IA de résumer. Je peux dire, vous pouvez me résumer un petit peu la situation d'aujourd'hui. Enfin, je trouve que c'est un outil. Bon, la psy, elle résume à la fin de la séance, mais là, je peux demander un résumé en une page, en fait, si je veux. Hein. Donc, c'est quand même ce qui est disponible. Je ne dis pas que c'est bien. Hein. Je dis que c'est disponible et ça peut être intéressant de se dire, l'IA va me proposer en une page, une résumé de la situation là, qui m'est arrivée hier. Bon, pourquoi pas. Et puis, je peux demander aussi à l'IA de me révéler des faits marquants. Exemple, si je raconte depuis plusieurs fois avec l'IA, je discute depuis longtemps, je peux lui dire combien de fois je t'ai parlé de mon ami qui s'appelle Kevin. L'IA va pouvoir me dire combien de fois j'en ai parlé. Bon, je dis pas que c'est extrêmement intéressant. Mais il y a des éléments plus fins que l'IA va pouvoir me ressortir. Combien de fois j'en ai parlé et mon chien, j'en ai parlé déjà de mon chien. Bon, il va pouvoir me dire que j'en ai jamais parlé. Bon, voilà, des éléments dans le genre. Et je trouve qu'il y a quelque chose de technique qui peut être plaisant pour certaines personnes.
Est-ce que l'IA peut aussi qualifier des comportements où, par exemple, Kevin, allez, parlons de Kevin, on l'a vu 50 fois, on a expliqué un peu la relation qu'on a eue avec lui, et si on lui demande, finalement, est-ce que Kevin, ça pourrait pas être un amoureux ou un mari fiable?
Sûrement que l'IA peut répondre à ça. Je sais pas trop, mais ça m'étonnerait pas, hein, effectivement.
Conseiller conjugal en plus.
Ouais. Mais j'ai déjà entendu qu'il y en avait qui tombaient amoureux même. Hein. Ça te dit quelque chose, ça? J'ai déjà entendu. Donc bon, tomber amoureux d'une IA, ça semble complexe. Mais bon, apparemment, c'est déjà arrivé.
Donc, en fait, là, je ne parlais pas de tomber amoureux d'une IA, mais que l'IA détermine dans des comportements si on est amoureux d'une personne ou si c'est juste une aventure sans lendemain, par exemple.
Alors, je pense que c'est possible. Mmh. Mais bon, là, je n'ai pas fait l'expérience, mais je pense que c'est possible.
Ouais. Alors, dans un monde habituel, j'allais dire traditionnel, l'amour, c'est important, l'amitié, c'est important. Comment on préserve ces relations humaines-là? Est-ce que l'IA peut dégrader, améliorer les choses? Est-ce qu'il y a un impact possible?
Ça, c'est une question complexe. Sûrement que l'IA peut aider dans les relations. Après, de quelle manière je pense que quand j'expose une situation et que du coup ça me fait du bien et que ça peut m'apaiser, ça peut m'encourager à dire bon, bah allez, demain je vais appeler ma sœur suite à mon échange avec l'IA, pourquoi pas. Mm-hmm. Bon, ensuite, je pense pas que ça suffise à aller mieux, hein, ça il faut quand même le dire. C'est un peu. J'ai le mot soupape en tête, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est un peu quand je suis pas bien et que bah je vais boire un verre ou je vais fumer une cigarette.
Décompresser.
Ouais, voilà. Donc ça aide, mais c'est pas suffisant.
Alors c'est vrai qu'on est dans une société qui n'est pas facile à vivre, même pour ceux qui travaillent, c'est peut-être encore moins facile pour ceux qui sont sous pression au travail. La pression semble avoir augmenté dans le travail depuis le Covid, ou même peut-être déjà avant. Est-ce que justement, quand on est dans une situation de souffrance au travail, et moi j'en vois quand même beaucoup, je ne sais pas si toi tu en vois.
Tout à fait, oui.
Mais ça devient assez important, même dans des milieux où on n'imagine pas que leur travail soit désagréable, déplaisant, mais il y a des tensions au sein des entreprises, et des gens sont en souffrance, et parfois prennent des congés de maladie, pour dépression, etc. Mmh. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas réglé, bien au contraire.
Tout à fait. Je suis en libéral depuis 5 ans maintenant, et c'est vrai que la souffrance au travail, on la retrouve souvent. On y est quand même tous les jours, enfin, à peu près de 19h, de 9h à 19h, je ne sais pas, 18, bref. Donc on y passe beaucoup de temps. Alors, il y a souvent les conflits avec la hiérarchie, les conflits entre collègues. Bon, comment peut nous aider l'IA avec ça ? Avec cette question, ça me fait penser à l'organisation du travail, comment l'IA peut aider à une organisation plus fluide, plus structurée. Si entre collègues, on ne se comprend pas, c'est qu'on a peut-être un peu empiété sur les missions de l'autre. Comment l'IA peut nous aider à définir nos missions, à définir notre planning, de façon à ce que chacun se sente entendu et avec une place importante dans la structure, afin de moins... être en conflit, bon, c'est ce à quoi je pense. Si on se demande que peut faire l'IA pour aider dans les difficultés au travail, ce serait la réponse que je proposerais.
Peut-être que dans les entreprises, il pourrait y avoir justement une sorte de communauté qui émerge de gens qui travaillent dans l'entreprise et qui mettent en commun les problématiques et que l'IA proposerait un mode d'emploi, une solution en disant peut-être qu'on pourrait travailler ça, ça et ça.
Voilà, je pense déjà que ça existe sûrement, hein, mais oui. ça se développe. Si je reviens à la psychologie, bah justement, j'ai créé un logiciel Merci Psy qui aide les psychologues dans la gestion du cabinet libéral. Et donc, Merci Psy, alors c'est vrai que dans le cabinet libéral, on est seul, mais on va aider le psychologue avec l'IA également. Donc c'est pour ça aussi que c'est un sujet qui me touche, c'est que l'IA va nous aider dans la comptabilité. Je vais rentrer, j'ai eu tel patient, il est venu tel nombre de fois, il a payé tel prix. Enfin bref, comment l'IA va pouvoir tout me répertorier, me comptabiliser, et que j'ai plus besoin ou presque de revenir sur certains éléments. Donc là, il y a la comptabilité, mais il y a aussi l'observation du discours du patient, donc avec une photo. Je vais de mes notes, on écrit souvent de façon manuscrite. Avec une photo, je vais avoir mes notes de façon numérique et l'IA va m'aider à révéler des faits qui reviennent. Justement, combien de fois le patient a abordé l'accident de son frère, enfin bon, j'en sais rien. Donc, c'est que l'IA, elle vient quand même nous aider à révéler certains faits, mais il faut quand même l'utiliser, être maître de l'outil. Voilà, c'est un outil. C'est comme quand j'utilise un outil, c'est moi qui décide de ce que je vais faire avec. Mm-hmm. Il ne faut pas que ce soit l'outil qui décide à ma place.
Voilà, donc il y a aussi cette mémoire, les data que l'IA a et qui permet de garder des traces pour elle, hein. Des réflexions, de ce qui a été écrit, transcrit, etc. Et chose peut-être, quand on est un individu praticien, on a peut-être tendance au bout d'un an à oublier ce qui a été dit il y a longtemps.
Voilà.
Et là, on peut retrouver la trace de tout ça, refaire le fil et essayer de repérer dans l'ensemble, sur un point particulier, un problème qu'on imagine et qu'on réinterroge par rapport à l'IA pour savoir s'il est transversal à l'ensemble de la relation.
Voilà, absolument. Exemple, j'ai un patient dépressif et je lui avais déjà proposé il y a plusieurs années, je le suis depuis plusieurs années, et j'aurais aimé dire à l'IA, dis-moi, c'est quand la première fois que j'ai dit à ce patient de consulter un psychiatre ? Je sais que c'était il y a déjà plusieurs années. Quand je dis plusieurs années, c'est peut-être 2 ans, ou je me dis peut-être 3, ça ne m'étonnerait pas 3 en fait. Enfin bon, voilà, l'IA peut m'aider aussi à retrouver dans mes notes, c'est quand la première fois on en a parlé. Et je pense que des fois, on est surpris de plein de choses, puisqu'on a une mémoire humaine, on ne se rappelle pas. En plus, j'ai 80 patients. Je m'en rappelle parce que je lis avant chaque séance, la séance précédente. Et puis, les patients reviennent souvent. Au bout d'un moment, on connaît leur histoire. Mais voilà, l'IA va nous aider, un peu comme un assistant. Oui, un assistant clinique IA qui va nous aider à
sortez le dossier.
Ouais, c'est ça. Il va me sortir le dossier, il va me sortir le décès du père, il va me dire qu'est-ce qu'on a dit sur le sujet, voilà.
On peut parler maintenant peut-être de la confidentialité des IA, de la confiance qu'on peut leur apporter. Je vois que dans les entreprises importantes en France, on craint que certaines IA détournent ce qu'on leur donne comme information vers des clients à eux qui sont pas forcément malveillants, mais qui essayent de capter un peu l'intelligence des autres, quoi. Les savoir-faire, et dans le monde technologique aussi, quoi. Alors, il y a bien sûr, quand on confie à une IA américaine des secrets de fabrication ou à pourquoi pas des IA chinoises ou autres, il peut y avoir ce danger-là, ce qui fait que il y a en ce moment une réflexion au niveau de l'IA souveraine, on dit, IA souveraine, pour garder les sources au moins en France, sinon en Europe peut-être.
Voilà,
aussi.
Voilà, tout à fait.
Donc il y a cette notion de garder les idées fortes pour soi si on veut les préserver.
Voilà, exactement. Je trouve que c'est très important ce que tu dis là. C'est dans le fait qu'on cherche à utiliser l'IA, mais de façon sécurisée. Donc, quand j'écris sur ChatGPT, je ne sais pas où ça va, je ne sais pas à qui je parle, à quoi je parle. Bon, l'IA, on a constaté qu'il y a des bienfaits. Maintenant, la question, c'est comment je sécurise mes données. Voilà. C'est pour ça qu'avec Merci Psy, on s'est dit les données sont stockées dans la machine du praticien. Bon, ça amène aussi beaucoup de technicité, mais l'idée, c'est de dire ce que je répertorie de mes patients sont sur mon ordinateur et non sur Internet. C'est pas la même chose. Ensuite, qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus?
Donc, on va dire, est-ce que les secrets que te livrent tes patients risquent pas de tomber dans de mauvaises mains, en clair, c'est ça, avec les piratages, etc.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que quand c'est sur l'ordinateur du praticien que j'enregistre mes données patients, c'est pas sur Internet. C'est pas la même chose, hein. L'IA sur Internet et l'IA sur un ordinateur de bureau, sur le bureau, un outil de bureau. Voilà. Et ce dont je voulais parler, c'est que donc, je suis psychologue et je vois un psychologue aussi pour ma thérapie personnelle, mon histoire, mes problèmes. Et je lui ai raconté tellement de trucs à mon psy. C'est normal, c'est mon psy. Et aussi tellement de choses que j'assumerais pas publiquement. Donc, si mon psy me disait, bah, tout ça, j'ai mis sur l'IA, sur ChatGPT, il m'a donné une conclusion. Bah, non, c'est compliqué, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut encadrer. Même moi, en tant que patiente, je veux pas. D'ailleurs, je me dis que mon psy, il a quand même des dossiers papier. Il prenait aussi sur feuille, mais au fond, ces dossiers, je sais pas ce qu'il en fait non plus, hein. Voilà. Donc, c'est quand même une confiance. Mais quand c'est sur l'ordinateur et qu'on sait pas où ça va, je comprends totalement. Donc, on encadre, on sécurise le plus possible. Et
c'est vrai que l'Europe commence à se pencher sur la question quand même. On voit des RGPD, etc. Enfin, des normes, on va dire, des consignes qui font qu'il y a des interdictions, des mises aux normes, d'une certaine manière, pour que les technologies restent avec une certaine déontologie, même s'il peut y avoir toujours des dérapages. Alors, on va revenir maintenant à l'histoire de l'IA en termes de bouleversement dans le monde du travail, par exemple, dans la mesure où, comme elle apporte une certaine efficacité, alors, par exemple, dans vos métiers, on peut dire que peut-être au niveau administratif, 30% peuvent être réduits en termes de temps par l'IA, mais dans d'autres entreprises, certains domaines, il y a peut-être beaucoup plus que ça encore, et donc des évolutions des carrières, des métiers d'une certaine manière, où certaines personnes qui étaient habituées à faire certains travaux n'ont plus à les faire, puisque maintenant c'est l'IA qui le fait à leur place. Il y a des bouleversements de société dans le monde du travail aussi. Comment vous imaginez aussi les répercussions psychologiques pour l'adaptation de ces personnes qui perdent d'une certaine manière leur fonction, remplacées par l'IA justement, et qui doivent s'adapter à de nouvelles pratiques?
Oui, tout à fait. Bon, qu'est-ce que je dirais là-dessus en tant que psychologue? Je pense que l'automatisation des tâches reste une bonne idée. Quand l'IA, elle peut me faciliter, quand je parlais de ma liste tout à l'heure, où je récite une liste d'objets présents chez moi et me sort l'inventaire, bon, pourquoi je n'utiliserais pas cet outil? Je trouve que c'est plus facile, plus rapide, moins fastidieux que d'écrire tout. Bon. Ensuite, si on parle par exemple de la réduction des postes, hein, c'est un peu ça, hein, l'IA remplace tellement qu'au bout d'un moment, on a moins besoin d'hommes. Bon, c'est sûr que ça interroge et que il faut se poser les bonnes questions, il faut trouver la limite. Quand est-ce que j'utilise l'IA parce que ça nous sert? Quand est-ce que j'utilise l'IA parce que ça sert à l'économie et que ça licencie, hein. C'est pas une question simple, là, comme ça, comment y répondre, mais voilà, je pense que l'outil en lui-même peut aider dans l'activité travail. Ensuite, quand elle vient remplacer totalement une personne, ouais, là, ça questionne, et je pense qu'il faut, il faut réfléchir aussi à tout un système économique où chacun aurait sa place dans le monde du travail.
Justement, par rapport au monde du travail, est-ce qu'il y a des inspecteurs du travail qui peuvent détecter qu'il y a des souffrances au travail liées peut-être à l'IA et qui renverraient soit les personnes, soit l'entreprise vers un psychologue qui pourrait mettre à disposition de l'entreprise pour régler certaines choses? C'est imaginable?
Bon, ce serait intéressant en tout cas.
Il faut le proposer. Je pense qu'on a constaté beaucoup de souffrances dans votre entreprise. Est-ce qu'on pourrait faire alors une psychanalyse collective? Peut-être pas, mais un point global pour voir quelle solution on peut vous apporter pour amener un peu plus de bien-être au travail.
Oui, bah, il y a quand même des psychologues du travail, des psychologues qui viennent justement pour aider dans le monde du travail. Mais que ferait l'IA? Je ne sais pas trop. Si on imagine qu'une IA sur mon poste de travail, pas en tant que psy, mais je ne sais pas moi, dans une entreprise, au secrétariat ou bon, j'en sais rien, je ne sais pas comment l'IA pourrait identifier un dysfonctionnement dans ma façon de travailler qui viendrait révéler un besoin d'appui.
Mais l'IA pourrait peut-être partir des chiffres de l'entreprise pour dire vous avez autant de salariés qui ont un congé pour dépression ou autre, et dire il y a un vrai problème là, peut-être qu'on peut l'identifier ensemble et trouver des solutions pour améliorer les choses.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, dans ce que j'ai compris, pour le moment, l'IA sert beaucoup à augmenter la rentabilité. Hein, je veux gagner du temps. Voilà.
Ça.
Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Une IA qui viendrait en fait nous aider à aller mieux, en tout cas à révéler des difficultés pour trouver solutions sociales un peu, c'est ça que tu dis?
Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que là, on pense toujours gain de productivité, mais les patrons n'imaginent pas la possibilité de soulager les travailleurs qui sont déjà sous pression grâce à l'IA pour leur donner un peu plus de légèreté dans le travail, de fluidité et peut-être plus de congés, pourquoi pas.
C'est vrai ça, ce serait une bonne idée, même si je pense que ça existe quand même, hein, des entreprises où l'IA rend le travail moins pénible.
Voilà, donc on n'est qu'au début d'une aventure avec l'IA, on a bien compris que tout le monde s'en préoccupe, hein, à des degrés divers, les entreprises, les administrations, les personnes qui s'y mettent, alors en général pour s'amuser au départ, mais qui peuvent y trouver aussi un intérêt. Bon, je ne sais pas si on peut dire du développement personnel avec l'IA.
Bon, en tout cas, l'émergence d'un intérêt, c'est déjà ça. Hein. Si en parlant avec ChatGPT, je me dis « Ah ouais, bon, bah allez, je vais aller voir un psy. J'ai senti que quand je dis des choses de moi, je peux avoir certaines réflexions intéressantes. » Si ça permet ça, c'est génial.
Voilà, et puis aussi peut-être d'avoir des connaissances accrues, disponibles. Et quand on cherche sur un sujet qu'on ne connaît pas bien, ça donne des éléments, des informations qui sont intéressantes. Mmh. C'est une façon d'apprendre aussi, si on le souhaite.
Absolument. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi plein d'informations sur ChatGPT qui font réfléchir, qui nous apprennent des choses. Et puis, une petite réflexion. Parfois, on me demande, mais vous n'avez pas peur que l'IA vienne remplacer le psychologue? On n'aura plus besoin de psy, tout le monde raconte sa vie sur l'IA. Et en fait, j'ai une réponse un peu originale, mais je la trouve juste. La réponse, je trouve, bon, en tant que psy, je vais parler de la sexualité qui vient dire beaucoup de choses de notre vie, qui est importante dans notre vie. Si je posais la question autrement, c'est-à-dire remplacer la sexualité, si on va dire par exemple la masturbation, en quoi la masturbation va pouvoir être remplacée par une relation sexuelle? Impossible. Je récapitule. Si on dit oui, mais la machine va venir remplacer le psychologue, donc l'humain, et je trouve que c'est un peu la même chose que de dire la masturbation va remplacer la relation sexuelle. C'est pas du tout la même chose, c'est un exemple. Hein, pour dire qu'en fait, c'est utile, la masturbation c'est utile, mais ça viendra jamais remplacer l'humain, la relation sexuelle, justement.
Alors peut-être quand même qu'on peut constater que dans les pratiques justement de sexualité, il y a beaucoup de formes pour échapper à la sexualité, j'allais dire, traditionnelle, hein, sinon normale. Ça ne veut pas dire grand-chose normal, mais peut-être ne plus affronter la relation à l'autre directe, hein, passer par des intermédiaires, des outils, des techniques, pour éviter d'avoir une réalité à assumer.
Absolument, t'as tout compris. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça aussi que je donne cet exemple. Parce que là, c'est plus clair. Mais oui, bon, la masturbation, pourquoi pas, c'est pas mal. Ça fait le taf, on va dire. Mais jamais ça remplace la relation sexuelle, la relation à l'autre. Et c'est ça que l'IA ne donne pas. Mais ça veut pas dire que, si je reprends mon exemple, la masturbation, ça compte. Donc l'IA, c'est pas du tout la même chose, mais ça compte. Mais jamais ce sera la relation humaine.
Voilà, donc on va terminer peut-être cette réflexion. On pourrait en faire une autre sur la sexualité en psychologie ou au travers des objets connectés.
Ouais,
ça serait une autre émission.
Ouais, hein. Tout à fait, tout à fait.
mais se dire qu'on est au début d'une aventure, on ne sait pas trop où ça va nous mener en efficacité, productivité, on va dire, oui. En qualité de relation humaine, pas sûr, même si ça peut donner des clés pour aborder l'autre ou les autres, peut-être aussi, donner quelques conseils, peut-être ça vaut le coup, mais peut-être que certains conseils sont peut-être trop liés au renvoi à la psychologie de la personne et pour la conforter parfois dans ses travers, sans apporter d'ouverture vers d'autres solutions. Voilà, il y a plein de choses à imaginer.
Plein de sujets à venir, oui, voilà. Tout à fait.
Bon, on a fait le point cette année, on se reverra l'an prochain pour développer un petit peu, compte tenu de l'évolution des pratiques, des techniques et des mœurs.
Tout à fait. Merci pour cet accueil.
Merci beaucoup et puis bonne journée à vous.
Bonne journée.
J'allais dire, profitez bien de l'été.
Voilà.
On y est là.
Bel été, merci.
Ouais, là, c'est sûr qu'on y est. Voilà. Alors, là, je vous passe un titre d'un musicien que j'accueillerai la semaine prochaine par téléphone. Alors, il habite dans le sud de la France. Il s'appelle Marin Esteban et il crée de la musique instrumentale, tranquille, comme ça, un peu planante. Donc, l'album qui vient de sortir s'appelle Dreamers et voilà le genre. Donc, je l'ai appelé avant-hier pour convenir qu'on fasse l'émission la semaine prochaine pour présenter cet album, Dreamers, de Marin Esteban. Et peut-être que là, la musique, on aurait pu aussi en parler de musique et thérapie, quand tu veux.
Avec plaisir.